Chapitre 11. J'avais commis une imprudence énorme, c'est vrai. Je n'en avais pas moins trouvé le défaut de la cuirasse, ce joint par où on désarticule le plus solide système de défense. Moi, conscrit volontaire, j'avais vu clair là où le vieux routier de la sûreté s'égarait à tâtons. Un autre, peut-être, eût été jaloux et m'en eût voulu, lui, non. Il ne songeait qu'à tirer parti de mon heureuse découverte, et comme il le disait, ce ne devait pas être la mer à boire, maintenant que la prévention s'appuyait sur un point de départ positif. Nous entrâmes donc dans un restaurant voisin pour tenir conseil tout en déjeunant. Et voici où en était le problème, qui, l'heure d'avant, semblait insoluble. Il nous était prouvé jusqu'à l'évidence que Monistrol était innocent. Pourquoi il s'était avoué coupable ? Nous pensions bien le deviner, mais la question n'était pas là pour le moment. Nous étions également sûrs que Madame Monistrol n'avait pas bougé de chez elle le soir du meurtre. Mais tout démontrait qu'elle était moralement complice du crime, qu'elle en avait eu connaissance, si même elle ne l'avait conseillé et préparé, et que, par contre, elle connaissait très bien l'assassin. Qui était-il donc, cet assassin ? Un homme à qui le chien de Monistrol obéissait comme à ses maîtres, puisqu'il s'en était fait suivre en allant au Batignol. Donc, c'était un familier de la maison Monistrol. Il devait haïr le mari, cependant, puisqu'il avait tout combiné avec une infernale adresse pour que le soupçon du crime retombât sur cet infortuné. Il fallait d'un autre côté qu'il fût bien cher à la femme, puisque le connaissant, elle ne le livrait pas, lui sacrifiant sans hésiter son mari. Donc, oh mon Dieu, la conclusion était toute formulée. L'assassin ne pouvait être qu'un misérable hypocrite, qui avait abusé de l'affection et de la confiance du mari pour s'emparer de la femme. Bref, Madame Monistrol, mentant à sa réputation, avait certainement un amant, et cet amant, nécessairement, était le coupable. Tout plein de certitudes, je me mettais l'esprit à la torture pour imaginer quelque ruse infaillible qui nous conduisit jusqu'à ce misérable. Et voici, disais-je à M. Méchinet, comment nous devons, je pense, opérer. Madame Monistrol et l'assassin ont dû convenir qu'après le crime, il resterait un certain temps sans se voir. C'est de la prudence la plus élémentaire. Mais croyez que l'impatience ne tardera pas à gagner la femme et qu'elle voudra revoir son complice. Placez donc près d'elle un observateur qui la suivra partout et avant 2 fois 48 heures, l'affaire est dans le sac. Acharné après sa tabatière vide, M. Méchinet demeura un moment sans répondre, mâchonnant entre ses dents je ne sais quelle parole inintelligible. Puis tout à coup, se penchant vers moi, « Vous n'y êtes pas, me dit-il. Le génie de la profession, vous l'avez, c'est sûr. Je ne vous le conteste pas. Mais la pratique vous fait défaut. Je suis là, moi, par bonheur. Quoi ? Une phrase à propos du crime vous met sur la piste et vous ne poursuivez pas ? Comment cela ? Il faut l'utiliser, ce caniche fidèle. Je ne saisis pas bien. Alors sachez attendre. » Madame Monistrol sortira vers 2 heures, pour être à 3 au palais de justice. La petite bonne sera seule à la boutique. Vous verrez, je ne vous dis que cela. Et en effet, j'eus beau insister, il ne voulut rien dire de plus, se vengeant de sa défaite par cette bien innocente malice. Bon gré mal gré, je dus le suivre au café le plus proche, où il me força de jouer au domino. Je jouais mal, préoccupé comme je l'étais, et il en abusait sans vergogne pour me battre, lorsque la pendule sonna 2 heures. « Debout, les hommes du poste !» me dit-il en abandonnant ses dés. Il paya, nous sortîmes, et l'instant d'après nous étions de nouveau en faction sous la porte cochère, d'où nous avions étudié les abords du magasin Monistrol. Nous n'y étions pas depuis 10 minutes quand Madame Monistrol apparut sur le seuil de sa boutique, vêtue de noir, avec un grand voile de crêpe comme une veuve. « Jolie toilette d'instruction, » grommela Monsieur Méchinet. Elle adressa quelques recommandations à sa petite domestique et ne tarda pas à s'éloigner. Patiemment, mon compagnon attendit 5 grandes minutes, et quand il supposa la jeune femme déjà loin, « Il est temps, » me dit-il. Et pour la seconde fois, nous pénétrâmes dans le magasin de bijouterie. La petite bonne y était seule, assise dans le comptoir, grignotant pour se distraire quelques morceaux de sucre volé à sa patronne. Dès que nous parûmes, elle nous reconnut, et toute rouge et un peu effrayée, elle se dressa. Mais sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche. « Où est Madame Monistrol ?» demanda Monsieur Méchinet. « Sortie, monsieur. Vous me trompez, elle est là dans l'arrière-boutique. Monsieur, je vous jure que non, regardez-y plutôt. » C'est de l'air le plus contrarié que Monsieur Méchinet se frappait le front en répétant. « Comme c'est désagréable, mon Dieu! Comme cette pauvre Madame Monistrol va être désolée !» Et la petite bonne le regardant bouche béante, l'œil arrondi d'étonnement. « Mais au fait, continua-t-il, vous, ma jolie fille, vous pouvez peut-être remplacer votre patronne. Si je reviens, c'est que j'ai perdu l'adresse du monsieur qu'elle m'avait prié de visiter. »« Quel monsieur ?»« Vous savez bien, monsieur. Allons bon, voici que j'oublie son nom maintenant. » Monsieur Parbleu, vous ne connaissez que lui, ce monsieur à qui votre diable de chien obéit si bien. Ah, monsieur Victor, c'est cela, juste. Que fait-il, ce monsieur? Il est ouvrier bijoutier. C'est un grand ami de monsieur. Ils travaillaient ensemble quand monsieur était ouvrier bijoutier avant d'être patron, et c'est même pour cela qu'il fait tout ce qu'il veut de Pluton. Alors, vous pouvez me dire où il demeure, ce monsieur Victor? « Certainement, il demeure rue du Roi Doré, numéro 23. » Elle paraissait toute heureuse, la pauvre fille, d'être si bien informée, et moi je souffrais de l'entendre ainsi dénoncer, sans s'en douter, sa patronne. Plus endurci, Monsieur Méchinet n'avait pas de ses délicatesses. Et même, nos renseignements obtenus, c'est par une triste raillerie qu'il termina la scène. Au moment où j'ouvrais la porte pour nous retirer, « Merci, dit-il à la jeune fille, merci. Vous venez de rendre un fier service à Madame Monistrol, et elle sera bien contente. »